Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission que j'ai envie aujourd'hui d'intituler Radio Archive Wagon Livre. En effet, à la fin de cette année 2020, Wagon Livre fêtera ses 10 années d'existence sur l'antenne de Radion. Alors bien évidemment, au cours de ces 10 ans, nous avons accumulé un très grand nombre de rencontres, d'interviews, d'entretiens. Et bien évidemment, nos archives, qui sont précieusement conservées, présentent encore beaucoup d'intérêt, me semble-t-il. Et c'est la raison pour laquelle, cette année, de temps en temps, nous aurons, comme ça, l'occasion de vous offrir des morceaux d'anthologie, des morceaux d'entretien avec des écrivains, avec des politiques, avec des gens qui sont parfois des artistes, mais toujours qui ont cet amour du livre, des personnes que j'ai rencontrées dans des salons du livre ou qui m'ont très gentiment reçu dans leur univers. Alors aujourd'hui, nous aurons l'opportunité d'entendre le chanteur Eric Morena. Eric Morena, vous le connaissez, c'est celui qui en 1987 est devenu véritablement célèbre avec ce tube « Oh mon bateau » qui s'est vendu d'ailleurs à plus d'un million d'exemplaires. J'avais rencontré Eric Morena en octobre 2015 au Salon du Livre de Migennes. Il venait présenter un livre dans lequel il témoignait suite à la disparition de son compagnon emporté par le sida. Et Eric Morena se racontait et expliquait notamment qu'il avait envisagé de devenir prêtre. Il a d'ailleurs été durant plus de 10 ans. Ce sera à découvrir aujourd'hui dans notre émission. Et puis aujourd'hui, j'ai retenu un entretien avec Roger Knobelspies. Roger Knobelspies aura passé 26 ans de sa vie derrière les barreaux. C'est un ancien braqueur qui s'est reconverti à la littérature et au cinéma. Il est mort d'ailleurs il y a 3 ans dans Lyon, puisque Roger Knobelspies habitait un petit village du Tonnerrois. Il aura contribué à faire évoluer les mentalités sur les failles du milieu carcéral français dans les années 90. Ce sera à découvrir dans notre émission. Et puis, à la fin de l'émission, j'ai choisi des extraits d'un entretien enregistré au Conseil constitutionnel à Paris avec Jean-Louis Debré, qui m'avait très gentiment reçu dans son bureau pour évoquer certaines facettes de l'ancien président Jacques Chirac dans un ouvrage paru aux éditions Talendier intitulé « Le monde selon Chirac ». Mais nous allons maintenant ouvrir notre émission avec une femme qui elle aussi nous a quittés en avril 2014 à l'âge de 78 ans. Il s'agit de Régine Deforge, une femme de caractère et insoumise que j'avais rencontrée début novembre 2013 à Saulieu alors qu'elle était l'invitée d'honneur du Salon du Livre de cette ville de Côte d'Or. Régine Deforge qui avait soldé ses comptes dans ses mémoires en 2013, intitulé « L'enfant du 15 août », ouvrage pour lequel je l'avais rencontré. Et puis Régine Deforge, bien sûr, elle a été libraire, elle a été éditrice. Rappelons tout de même la saga de la bicyclette bleue qui s'est vendue, je parle de la saga, hein, à plus de 7 millions d'exemplaires, la bicyclette bleue, en 81. Jusqu'au 10e et dernier volume paru en 2007. Alors tout de suite, je vous propose d'entendre Régine Deforge. Régine Deforge qui explique en fait que très jeune déjà, elle avait une véritable curiosité pour les choses du sexe. Régine Deforge.
Oui, moi, j'étais une enfant très curieuse des choses du sexe. Et dans le jardin public où nous allions jouer, il y avait donc des toilettes publiques. Et là, il y avait des messieurs qui s'exhibaient, qui se montraient. Et moi, j'étais très intéressée par ça. Donc, je les regardais, j'ai même touché. Mais ça n'a pas été plus loin.
Alors, vous êtes intriguée, effectivement, par les hommes. Il y a une lecture importante. Alors, nous, dans le département de Lyon, on aime cet écrivain parce qu'elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisaye, dans notre département de Lyon. C'est Colette et c'est le blé en herbe a eu, en tout cas on peut dire que c'est une lecture marquante pour vous, parce qu'adolescente vous dévorez les livres, vous êtes vraiment, votre culture est une culture livresque.
Tout à fait, faut dire que Colette est un auteur tout à fait sensuelle, d'une grande, grande sensualité. Et dans Le blé en herbe, c'est l'histoire d'amour d'une femme d'un certain âge, elle doit avoir 35 ou 40 ans, ce qui à l'époque semblait vieux, avec un jeune garçon d'une quinzaine d'années. Et moi, ça m'avait beaucoup troublé. Mais c'est pas le premier livre qui m'a le plus troublé. Le premier livre qui m'a troublé, c'est Candide de Voltaire.
L'épisode de la fessée.
L'épisode de la fessée. Et puis surtout, on parlait tout le temps du cul de Cunégonde. Et nous, on ne disait pas de gros mots à l'époque. J'ai dit « Dieu, merde, la première fois, j'avais 15 ans. » Donc, cul, ça me semblait très gros mot.
Il y a l'épisode, alors adolescente, où vous êtes amoureuse de Manon.
Tout à fait.
Alors là, c'est l'époque, vous avez... Quel âge avez-vous ?
15 ans.
15 ans. Manon, c'est une camarade, vous l'embrassez sur la bouche. Mmh. Vous aimez hein, l'une comme l'autre. Hein, c'est totalement réciproque. C'est un amour vraiment profond, intense. Et malheureusement, cette affaire va s'ébruiter parce que quelqu'un met la main sur votre journal intime. Déjà, vous écriviez ce que vous éprouviez. Et cette affaire remonte même jusqu'à la gendarmerie. À 15 ans, c'est assez... c'est un scandale quand on aime à 15 ans.
Non, mais c'est un scandale.
Et c'est un scandale pour votre famille aussi.
C'est un scandale pour la famille. Les gendarmes viennent à la maison, convoquent mes parents, leur disent qu'il faut absolument récupérer ce journal pour que le scandale cesse, etc. Et ça ne cesse pas. Dans la rue, on m'insulte, les bonnes femmes me giflent, les gamins me jettent des pierres, on me court après. Enfin, on m'appelle la tigresse parce que je me bagarrais beaucoup. Et donc, c'est très, très pénible. Les bonnes sœurs nous renvoient de l'institution où nous étions, ma sœur et moi. Et aucun établissement de la région ne veut nous recevoir. Et mes parents n'ont pas les moyens de nous mettre en pension à Poitiers.
Alors, vous écrivez, par rapport à cet épisode de votre adolescence, épisode douloureux, parce que dans ce livre, ce que j'ai remarqué dans L'enfant du 15 août, c'est qu'une Régine de Forges tremblotante, qui a peur parfois, qui pleure beaucoup... mais qui, à la fin, dit finalement « la vie m'a beaucoup donné ». C'est aussi la leçon de ce livre, quand bien même vous ne cherchez pas vraiment à tirer des leçons.
Non.
Mais vous vous mettez à nu, on peut le dire quand même.
Non, mais j'ai été très gâtée, c'est vrai, j'ai été très très gâtée. J'ai eu cet épisode absolument douloureux, assez épouvantable, dont je ne suis pas remise d'ailleurs, qui fait que j'ai toujours, vis-à-vis des autres, un sentiment de peur, de crainte. Je sais que l'autre est méchant, il est jaloux, il est envieux, enfin, il est toute la chose. Donc, mais si vous voulez, malgré tout, cette vie reste quelque chose de tout à fait surprenant. On ne sait pas très bien à quoi ça sert, mais nous n'avons que celle-là, il faut la vivre au mieux.
Premier mariage avec Pierre Spengler.
Mm-hmm.
Alors, un mariage qui est décidé au jeu.
Ouais.
À coup de 421.
Mmh. Est-ce
bien
beaucoup.
Raisonnable, Régine de Forges.
C'était pas raisonnable du tout, c'était surtout imbécile. Imbécile, je me suis conduite comme une sotte, mais enfin d'être de jeu, d'être d'honneur.
Vous avez aimé beaucoup de femmes dans votre vie. Alors, il y a Manon, nous l'avons dit. Il y a Fanette, l'épisode avec Fanette. Et puis, vous avez été aussi amoureuse d'une chanteuse américaine, Sandy Stewart.
Oui,
alors, Régine de Forges, finalement, est-ce que vous étiez bisexuelle?
Je crois que je suis bisexuelle, tout à fait. J'aime autant les hommes que les femmes.
J'ai été amusé parce que vous avez croisé l'abbé Pierre et l'abbé Pierre vous a confessé qu'il aurait aimé être une femme pour lui-même faire l'amour à des femmes. Et vous lui avez écrit des petites histoires de lesbiennes.
Ouais, tout à fait.
Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable.
Ben oui, c'était un personnage assez incroyable.
Ce n'était pas un saint.
Ah, c'était pas un saint, non. Non. Enfin, un saint, c'est quand même quelqu'un qui a des désirs, qui a des pulsions. Les saints ne sont pas forcément des êtres exemplaires, ça se saurait.
Et sur l'abbé Pierre, vous vous souvenez de ce repas très modeste, de très mauvaise qualité que vous avez fait avec lui?
Je revois toujours ce gâteau dégoulinant de crème rose. Il l'avalait, lui, moi je ne pouvais pas, j'avais là. Oui, oui, qui est dans une sorte d'immeuble de ce côté de la porte de Charenton. Mais bon, c'était gentil, c'était sympathique.
Vous êtes devenu ensuite libraire. Avant d'être écrivain, vous êtes devenu libraire. Alors, d'abord au drugstore des Champs-Élysées. Et là, vous en profitez, là encore, écoutant vos goûts et vos pulsions, peut-être, vous développez un peu les rayons, le rayonnage de livres érotiques. Vous découvrez des textes de Georges Bataille. C'est vrai que Bataille, c'est...
Oui.
Aujourd'hui, on n'oserait plus conseiller aux adolescents de lire Bataille.
Non.
La société est devenue quand même un peu...
De même qu'aujourd'hui, il est impensable de republier Les trois filles de leur mère Enfin, qu'un écrivain comme moi ou X publie Les Trois Filles de leur mère, alors que Les Trois Filles de leur mère existent en livre de poche et en Pléiade. Mais c'est l'éloge de la pédophilie, donc c'est impensable. Je lisais aussi un petit livre de Maurice N. qui s'appelle Luce ou Les Mémoires d'un veuf. C'est le mec qui se tape ses enfants de 6 ans à 12 ans.
Oui.
Oui.
Alors, à Limoges, vous, vous arrivez soutenu aussi avec un projet d'une belle grande librairie à Limoges, c'est la Gartempe, du nom de la rivière qui passait près de Montmorillon.
Qui passe à Montmorillon.
À Montmorillon. Et puis alors, il y a eu la librairie du Palimugre,
oui.
qui n'a pas fait long feu non plus, parce que là aussi, c'est très intéressant. Vous nous ramenez à la réalité du monde de l'édition et du monde surtout de la librairie. La librairie du Palimugre a très rapidement été concurrencée par la FNAC. Et alors, que vont devenir, Régine Deforge, les libraires indépendants dans les villes de province ou même à Paris? Quel avenir pour eux?
Dur. Très, 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 très dur. Vous savez, la plupart des libraires vivent avec le SMIG. Hein. Ça, on le dit pas assez. C'est très dur. Il faut avoir ce métier chevillé au corps pour continuer à l'exercer. Mais je pense que ça durera.
Vous avez créé 4 maisons d'édition successivement.
Oui, oui, oui.
Vous n'en souvenez plus?
Ah si, si, j'en souviens assez.
Donc la première, c'était L'Or du Temps, prise d'une formule de...
D'André Breton.
De Breton. Vous avez beaucoup aimé les surréalistes?
Non, pas beaucoup. Enfin, j'ai pas aimé Breton du tout. Mais il avait écrit, il avait dit cette chose qu'il a demandé qu'elle soit gravée sur son tombeau... Je cherche l'or du temps. Et je trouve ça très joli.
Mais Breton, vous lui en voulez un petit peu aussi, parce qu'il n'a jamais voulu reconnaître...
Non, c'est pas Breton, c'est Aragon.
Oh, c'est Aragon, pardonnez-moi. Ouais. Aragon, vous devez avoir un peu d'antipathie pour lui.
J'ai pas d'antipathie, j'ai du regret. Parce que c'est un grand poète, un grand écrivain. Et disait-moi que j'étais une emmerdeuse. J'aurais bien aimé le rencontrer. On a correspondu un moment, parce que je lui ai demandé... l'autorisation de publier Le Paysan de Paris, il m'a répondu en me disant que ça appartenait à Gallimard. Par contre, en ce qui concerne Le Comte d'Irène, il ne m'a jamais répondu, ce qui fait que je l'ai publié sans son autorisation.
Et vous avez eu des problèmes très rapidement?
Ah bah oui, 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 la totalité du stock a été saisie, les flics ont débarqué, etc.
Alors, des interdictions, des saisies, des poursuites, des condamnations pour quoi? Alors, outrage aux bonnes mœurs?
Outrage aux bonnes mœurs par la voix du livre.
Et aujourd'hui, ça vous fait sourire, ces condamnations? Vous voyez ça encore comme... C'est une souffrance pour vous, encore, aujourd'hui?
Non, ce n'était pas une souffrance, c'était un agacement. J'étais complètement en colère parce que... On poursuivait des livres qui pouvaient donner envie aux gens de faire l'amour, alors qu'on laissait François afficher une avec des enfants brûlés au napalm au Vietnam par les Américains. La pornographie, elle était de ce côté-là, elle n'était pas du mien.
C'est toujours posé le problème du financement, au point même que la Banque de France, même parce que vous aviez été condamné en justice pour outrage aux bonnes mœurs, la Banque de France disait qu'il ne faut pas prêter d'argent à cette femme.
Oui, oui, non pas seulement à cette femme, à tous les gens qui ont été dans cette situation.
Est-ce que vous avez été soutenu suffisamment? Non.
Non. Non. Non, non, non. La profession, enfin, c'est la presse qui était quand même la première concernée, puisqu'il s'agissait de... De la liberté d'expression, ne m'a pas soutenu. Il a fallu que je sois menacée de prison pour qu'un académicien chrétien, ancien résistant, Pierre-Emmanuel,
dans le Figaro de surcroît, qui lance une pétition.
Qui lance une pétition, avec des centaines de gens qui signent, de tous bords d'ailleurs. Et ce n'est pas relayé par la presse de gauche.
Vous avez même... par la mairie, je ne sais plus de quel arrondissement, là où vous habitez, vous avez été radié des listes électorales.
Ah oui, 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 je suis radié, privé de mes droits civiques, comme on dit.
Bon, c'est le président Pompidou qui vous a listé par la suite. Oui. Enfin, ceci dit, Régine Deforge, quand même, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas une provocatrice. Vous avez posé nu pour des magazines et vous dites que vous aviez posé nu aussi pour utiliser vos propres photos, votre corps. Pour illustrer les livres érotiques que vous faisiez paraître, et également pour des cartes postales ou cartes de vœux.
Ah non, non, non. Cartes de vœux, oui, oui, oui.
Mais vous êtes une provocatrice, non?
Si vous voulez, mais si vous voulez, on devient un provocateur à partir du moment où on vous interdit des tas de choses. Moi, ça a été le cas, si vous voulez. Le scandale est venu du fait qu'on interdise un livre, dans la France de l'après-guerre d'Algérie, etc. Et ça, moi, je n'ai pas compris.
À l'instant, c'était Régine Deforges que j'avais eu le plaisir d'interviewer début novembre 2013, alors qu'elle était l'invitée d'honneur du Salon du Livre de Saulieu, Régine Deforges, qui s'est éteinte à l'âge de 78 ans, le 3 avril 2014. On peut relire La Bicyclette Bleue, je rappelle, un succès absolument gigantesque puisqu'il s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. Vous êtes bien sur Radion, à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque un premier intermède musical et puis ensuite, nous nous tournerons vers un extrait d'entretien avec le chanteur Eric Morena. Et tout de suite, si vous le voulez bien, eh bien, pour se mettre en condition, on écoute le titre le plus célèbre d'Eric Morena, qui l'a lancé en février 1987, « Au mon bateau ». Restez avec nous, nous revenons juste après cette virgule musicale.
Héros. Monde des problèmes, j'ai fui.
Il fuit
comme la gazelle aimable, au gracile des velours. J'ai vendu des vagabagues. Les mouettes m'écrient leur bonjour.
Bonjour.
Oh mon bateau. Tutte le tempete si fa come da duete. Je
vuoi
per de fabuleux rivages où je serai bientôt roi. J'entends des rythmes sauvages, les algues dansent autour de moi.
Hop là!
Oh mon bateau! Ciel étoilé, les voiles gonflées de bonheur, les poissons chantent en chœur,
les crevettes,
les criolets,
olé,
olé, au bon bateau.
Radio Archive, Wagon Livre, les riches heures des archives de Wagon Livre. Et comme je l'avais annoncé au début de cette émission, nous allons maintenant entendre le chanteur Eric Morena, que j'avais eu le plaisir d'interviewer en octobre 2015 au Salon du Livre de Migennes. Eric Morena qui était venu présenter un témoignage sur la disparition de son compagnon décédé des suites du sida. un témoignage intitulé « Éric et Antoine sont dans un bateau » disponible aux éditions du Moment à l'époque. Le chanteur nous a quittés d'ailleurs le 16 novembre 2019 à l'âge de 68 ans. Il avait hésité à entrer dans les ordres. Je vous propose d'écouter tout de suite cette archive Wagon Livre avec le chanteur Éric Morena. Vous allez découvrir un personnage peut-être nouveau et peut-être porterez-vous un autre regard sur lui lorsque vous entendrez ce titre « Au mon bateau » qui a maintenant tout de même plus de 30 ans d'existence. Éric Morena.
Oui, ça a occupé quand même 14 ans de ma vie. J'ai fait partie du petit séminaire de Lille. Après, je suis monté à Paris. J'ai fait mes études de théologie et de philosophie à Issy-les-Moulineaux, chez les Sulpiciens. Et j'appartenais à la congrégation des Pères Spiritains du Saint-Esprit. Et je suis parti 4 ans en Afrique pour une mission. Et je suis revenu d'Afrique. Et là, après une longue année de réflexion, comment emmerdé, embarrassé par la lourdeur du dogme, j'ai dit je quitte. On ne quitte pas l'Église comme ça du jour au lendemain, hein, on laisse. Ça a été une grande blessure pour moi, ça l'est toujours, il y a toujours une cicatrice.
Et vous êtes toujours croyant, vous pratiquez ?
Ah mais la foi n'a rien à voir, c'est simplement que je me sentais pas en adéquation avec le dogme à cette époque. Peut-être qu'aujourd'hui je me sentirais plus à l'aise. Vous savez, on est jeune, on a des idéaux, et puis on arrive dans une institution lourde comme peut-être l'Église catholique. C'est vrai que j'étais... Voilà. Mais c'est quand même de très bonnes années pour moi. L'Église m'a apporté beaucoup.
Et puis, il y avait la tentation de la chair.
Oui, mais pas trop encore, parce que j'étais très croyant, donc je ne voulais pas trahir les règles de la communauté spiritaine. On ne peut pas dire que je me suis... Non. J'ai respecté tout ça. J'ai eu une vie, au contraire, très saine à cette époque.
Tout à fait. Ensuite, comment vos parents ont-ils réagi à ce changement total ?
Mon père a très mal réagi, parce que déjà, quand je lui dis que je veux être prêtre, il me dit « Attention, si tu y rentres, on ne veut pas te défroquer. » Donc, ça se passe très mal quand je ressors 10 ans après, hein, c'est ça, 10, 12 ans après. Ça se passe quand même très mal. Et il me dit « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Il voulait que je rentre à la banque dans laquelle il travaillait, parce qu'il voulait que je rentre vraiment dans le droit chemin pour lui, dans la conformité, que je suive, voilà. Et je lui dis, je vais être chanteur. Alors là, c'est le métier de saltimbanque, c'était très mal vu dans ma famille.
Des deux.
Mais ils m'ont pris comme un fou pour un fou.
Oui, entre
voilà.
La prêtrise et
ben
le
oui, absolument.
Métier de saltimbanque.
Voilà, c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai que je leur en ai fait voir de toutes les couleurs, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai simplement suivi mes envies. J'ai toujours... Voilà, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Je
donc me suis vous avez pas jamais revendiqué votre liberté.
Voilà, ma liberté. Et je suis d'ailleurs, j'étais parti très très vite parce qu'avec le séminaire, j'ai quitté mes parents très vite parce qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Or, le séminaire m'a donné une liberté et ça je leur en serai gré parce que à l'époque, 21 ans, c'était lourd.
Alors 87, donc il y a la chanson Au mon bateau.
Voilà.
Mais vous êtes un véritable artiste lyrique.
Oui, parce que pendant quand même 4-5 ans, je travaille le chant lyrique avec les plus grands professeurs de l'Opéra de Paris, Henri Leguet, Gabriel Baquier, Michel Danse. Et je travaille pour préparer un concours. Et ce concours, je ne peux pas le passer parce que j'ai dépassé l'âge. Dans le monde lyrique, c'est l'administration, c'est administratif. On ne s'occupe pas du talent. Et je n'ai pas pu passer mon concours. Donc je suis parti en claquant la porte. Et j'ai eu une petite année de flottement. C'était très bien d'ailleurs pour annoncer le bateau. Et puis mon ami m'a envoyé des cassettes de ma voix à différents labels. Et puis on m'a appelé un dimanche matin. Et on m'a dit voilà, je suis monsieur Jean-Patrick Tesser, je suis producteur, j'ai une chanson pour vous. Et il m'a donné rendez-vous le lendemain. Et il m'a dit, attention, quand je l'ai vu, ce n'est pas un coup que je vous propose, c'est une carrière. Et il m'a lancé comme un paquet de lessive. Voilà. Alors, le disque sort en février, et en décembre de la même année, de février 87, en décembre de la même année, je fais la première partie de Julie Pietri à l'Olympia. C'est très rapide.
Ève, lève-toi.
Voilà.
Entre autres.
Et c'est très, oui, bien sûr, tout à fait. C'est très rapide. Voilà, ça...
Alors, Au Mon Bateau a même été nommé aux Victoires de la musique.
Absolument.
Comme artiste de l'année 87. Oui. Le clip a été récompensé par un Lion d'argent
à
Cannes.
Oui, absolument.
Je l'ai revu d'ailleurs récemment via Internet.
Oui, et c'est
amusant d'ailleurs.
Oui, et c'est le premier clip auquel il y a des sous-titres. Donc, c'est le premier clip qui a été dans les jukebox, dans les karaokés. C'est extraordinaire, ça.
À combien d'exemplaires s'est vendu?
1,5 million.
Ah, c'est gigantesque.
C'est gigantesque. Surtout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on en bat en main quand même.
Et ce succès, justement, autour de Au Mon Bateau, ça a bouleversé complètement votre vie?
Bien sûr que ça a
Vous êtes un homme très accessible, très simple.
Bien sûr, je suis comme tout le monde.
Vous avez brassé beaucoup d'argent quand même.
Oui, mais je suis comme tout le monde, je suis un homme comme tout le monde. Voilà, on est semblables. C'est pas parce qu'on fait la chanson qu'il faut se croire sorti de la cuisse de Jupiter. Hein, ou avoir la grosse tête. Non, non. Moi, c'est un grand bonheur pour moi d'avoir fait le bateau. Voilà. J'ai brassé beaucoup d'argent. C'est vrai que j'ai mené une vie un peu folle. Et c'est là que mon ami en a beaucoup souffert.
Qu'est-ce que ça veut dire, une vie un peu folle?
Parce qu'on est pris dans le tourbillon de la célébrité, les galas, les tournées, beaucoup d'absence. Mon ami s'est senti très seul. Il a donc vécu la nuit dans le milieu gay à Paris. Et au cours de mes absences qui étaient longues, parce que j'ai chanté partout en Europe, partout. Hein, Eh bien, il y a eu un moment d'égarement et il a contracté le sida. Tout simplement, voilà. Donc, je me suis un peu culpabilisé aussi à cause de ça. Hein.
Alors, est-ce que vous confirmez qu'en 92, vous avez célébré mariage...
En 91, exactement.
91. Vous vous mariez avec un homme en présence d'un faux prêtre.
Oui,
enfin, c'est un simulacre de mariage homosexuel.
Tout était faux, absolument. On a fait ça parce que dans le but, à l'époque, il y avait le salon de l'homosocialité. Et trois députés socialistes avaient déposé le projet du Pax. Donc ça coïncidait bien, et les producteurs, comme ils voulaient faire un coup médiatique, eh bien ils ont dit, voilà, on va faire un faux mariage au Cirque d'Hiver avec un concert à la fin, et comme témoin, tu auras Frigide Banjo et Basile de Coq son mari. Voilà.
Alors, un mot de présentation, Éric Morena, sur ce récit, Éric et Antoine sont dans un bateau.
Eh bien, je raconte un petit peu, je fais le portrait de moi, de ma jeunesse, et puis la genèse du bateau, et la maladie de mon ami, et ce que j'ai vécu en 92 dans tous les hôpitaux de Paris jusqu'à ces derniers jours, où il a été hospitalisé chez moi. Voilà, c'est ce que je raconte. Le livre est un peu grave, c'est le revers de la paillette, si vous voulez. Voilà.
L'enregistrement d'Éric Morena que vous venez d'entendre a été réalisé en octobre 2015 au Salon du Livre de Migennes, Éric Morena, dont je rappelle le livre « Éric et Antoine sont dans un bateau », c'est aux éditions du moment. Vous écoutez Wagon Livre, toujours sur Radion. Dans quelques minutes, après la pause musicale, vous pourrez faire connaissance, si vous ne le connaissiez pas encore, avec Roger Knobelspies, qui a passé 26 ans de sa vie derrière les barreaux, dont 8 en quartier de haute sécurité, un ancien braqueur reconverti à la littérature et au cinéma, qui lui aussi nous a quittés il y a maintenant plus de 3 ans, le 19 février 2017, à l'âge de 69 ans, dans Lyon. Roger Knobelspies, dans ses lettres de prison, qui écrivait « Mon stylo, c'est ma vie bafouée, mon encre, c'est mon sang martyrisé, mon talent, c'est ma tête relevée ». Pause musicale à bord de ce Radio Archive Wagon Livre et on se retrouve juste après pour la suite de votre émission littéraire.
Il se lève, c'est l'heure, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Dans la cuisine, mais la sécurité. Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours. Sur un mauvais câble, dans la paranoïa, pas de marchand de grand panoramique urgent et désirant. Une blonde décapitée dans sa décapotable. Cauchemar, highway, battery, fumée noire. Une vente vorace tue au fond d'un couloir. T'en sors pas, cafard, battery, idée noire. Avalé par l'espace au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras,
je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire.
Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion pour ce Radio Archive Wagon Livre. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, nous allons maintenant réentendre Roger Knobelspies. Roger Knobelspies a un parcours absolument incroyable, effrayant et attendrissant aussi d'une certaine manière, puisqu'il a passé 26 ans de sa vie derrière les barreaux. Il est mort en février 2017 à l'âge de 69 ans. Dans Lyon, il aura en tout cas contribué à faire évoluer les mentalités sur les failles du milieu carcéral français dans les années 90. Il a publié des livres qui feront date, notamment KHS, Quartier de haute sécurité, sorti en 1980 et préfacé d'ailleurs par Michel Foucault. On mentionnera aussi L'acharnement ou la volonté de l'erreur judiciaire. Et également « Voleur de poule, une histoire d'enfant » disponible au Livre de Poche. Tout de suite, Roger Knobelspies, que j'avais rencontré au Salon du Livre de Migennes le 11 octobre 2015.
Vous savez, les prisons françaises n'ont rien à envier aux prisons dans les dictatures. Et j'ai fait ce livre, « QHS, quartier d'haute sécurité », qui a été utilisé, envoyé à tous les députés en 1981, pour l'abrogation des quartiers d'haute sécurité, qui ont donc été, mon livre a contribué à l'abrogation des QHS, quartiers d'haute sécurité. Mais si officiellement c'est abrogé, dans la pratique ça existe toujours. Et les prisons au jour d'aujourd'hui sont pires qu'elles n'ont jamais été. Alors on nous dit Taubira, garde des Sceaux laxiste. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que Taubira au jour d'aujourd'hui. Madame Taubira, c'est 70 000 personnes en prison et 50 000 personnes sous personne électronique, sous bracelet électronique. Ça veut dire qu'on a au jour d'aujourd'hui une population carcérale pire que ça n'a jamais été. On n'a jamais pu atteindre un tel chiffre.
Vous dénoncez aussi dans vos livres les suicides en prison. 1500 suicides en 20 ans, c'est un chiffre que j'ai relevé. Mais il y en a plus, si vous pensez.
Plus que ça, la moyenne, c'est 100 par an. C'est-à-dire que la prison est une guillotine sèche, une peine de mort parfaite.
Mais en fait, comment se suicide-t-on dans une prison? Moi, c'est la question. On se pend avec ses draps, comment fait-on?
Avec le drap, avec sa ceinture, avec une serviette mouillée, on s'auto-étrangle. Je ne peux pas énumérer ça, mais on meurt effectivement en prison, on se suicide.
Est-il vrai que vous avez été gracié par le président François Mitterrand en 81 Et est-il vrai qu'il vous a proposé la direction de du centre culturel Beaubourg?
Bien sûr.
Centre
bien
Pompidou.
Sûr. Oui, et Michel Rocard lui a proposé la direction de la musique dans la culture de Confort Sainte-Honorine. Et j'ai refusé. Je regrette, j'étais un peu... À l'époque, c'était... Ce qui s'est passé, c'est quand j'étais gracié, quelques jours après, la Cour de cassation a rejeté ma révision de procès par opposition à cette grâce présidentielle. Donc Simone Signoret m'appelle, elle me dit, voilà, ouais, votre révision de procès va être rejetée. Mais le combat continue. J'ai dit, non, Simone, le combat, il va continuer à ma manière, à moi. C'est-à-dire que moi, il y a plusieurs rejets que Nobel Peace, mais la partie la plus importante, c'est que j'étais victime de l'erreur judiciaire. Et l'erreur judiciaire, c'est quelque chose qui continue de crier en moi tous les jours. C'est innommable, l'erreur judiciaire. Vous comprenez? C'est une saignée dans le. On ne peut pas revenir là-dessus. Le juge qui se trompe devrait pas se regarder dans la glace.
Dans le petit juge Burgot, par exemple, qu'est-il devenu par rapport à l'affaire Doutreau, qui a été désastreuse?
Moi, on devrait faire subir au juge qui commet des erreurs judiciaires la même chose. Un juge qui commet une erreur judiciaire, il est à mettre en dessous de celui qui juge.
Vous vous sentez proche de Denis Sesnec dans son combat, par exemple, par rapport à la réhabilitation de son grand-père ?
Bien sûr, bien sûr.
À supposer qu'il y ait eu erreur judiciaire, là encore, il faut pouvoir le prouver. C'est ce qui reste très difficile sur des affaires très anciennes. Ah, la question vous laisse sans voix.
Non, la question ne me laisse pas sans voix. La question, elle répond à ce que je combats toujours et qui est encore valable aujourd'hui. Pour condamner un homme, on n'a pas besoin de preuves dans ce pays. Que ce soit au niveau correctionnel, que ce soit au niveau de la cour d'assises, on dit, monsieur, madame le jury, votre seule intime conviction suffit. C'est quoi l'intime conviction? C'est l'intime conviction, c'est un délit de faciès, c'est une croyance, c'est votre gueule ne me plaît pas, donc je peux vous condamner. L'intime conviction, ce n'est pas la production de la preuve, ni la matérielle des faits. Donc, l'affaire Sesnec et au jour d'aujourd'hui, le système en lui-même contient toujours la possibilité de l'erreur judiciaire. Je ne vous ai pas répondu sur le champ parce qu'il a fallu que je formule ma réponse.
Est-ce que vous avez confiance en la justice de notre pays?
Non, je suis un écrivain anti-justice. Je suis un écrivain engagé contre le système judiciaire. Ça fait 50 ans que ça dure.
Alors, est-ce que c'est pas un peu David contre Goliath?
Bah, je vais mourir comme ça. Je vais mourir avec la haine du système judiciaire. Moi, j'oublierai jamais la justice.
Est-ce que c'est la haine? C'est la haine qui nourrit un peu votre écriture.
Oui, la haine nourrit mon écriture, elle me tient debout.
Elle est salvatrice.
Elle est salvatrice, elle me permet l'intranquillité. Elle me tient la conscience à vif. Je suis à contresens, je suis une voix discordante. Et quand j'étais coupable, j'ai payé, j'ai reconnu en tant que coupable. Mais quand moi je suis victime d'une erreur judiciaire, les juges ne payent pas, ne reconnaissent pas cette erreur judiciaire. J'ai passé 12 ans, 6 mois et 11 jours en prison pour un délit que je n'ai pas commis. Comment voulez-vous que je me remette de ça? Jamais. C'est à vie.
Alors aujourd'hui, vous vivez dans le Tonnerrois?
Je vis dans Lyon. Oui,
dans Lyon.
À côté de Tonnerre. Voilà, j'aime bien cette région. Elle m'a accueilli, on ne fait pas chier. Je suis dans un petit village où je ne suis pas très convivial, mais les gens ne sont pas non plus très curieux. Donc, j'aime bien cette région.
Mais vous ne vous sentez nullement menacé par qui que ce soit?
Non. Non, non. J'ai l'esprit contestataire, critique, mais en fait, je vis dans la paisibilité. Alors, ça fait maintenant 25 ans que je suis dehors. L'autre jour, j'étais invité par un haut gradé de la police, après un incident. Il m'a invité à manger, je suis allé. Et à la fin du repas, je lui dis, mon collègue, je lui dis, moi, ça fait un collègue. C'est un colonel. Ça fait 25 ans que je n'ai pas touché un calibre, que je ne mets pas les mains dans le cambouis. Et il m'a dit, moi je croyais qu'il allait me dire quelque chose. Il m'a dit, ah, ça fait 25 ans qu'on n'arrive pas à vous avoir. C'est-à-dire que demain je serai le plus honnête des honnêtes hommes, je serai mort. Il y aura toujours un flic ou un juge ou un journaliste qui dira, ah, que Nobel Peace, hein, quand même celui-là. Et on n'a pas réussi à l'avoir. Donc, vous voyez, l'engeance, même 26 ans de prison, c'est insuffisant pour eux.
Alors, un que la police a eu, c'est Jacques Mesrine.
Qui était mon compagnon de lutte en prison. Il y a eu plusieurs Mesrine. Celui d'avant, que je n'ai pas connu, et celui d'après, que je n'ai pas connu. Mais quand j'ai monté une évasion à la centrale de Clairvaux, qui a échoué, on m'a transféré en pleine nuit, et on m'a amené à Fresnes. Et à Fresnes, au QHS de Fresnes, c'est là que j'ai rencontré Jacques Mesrine. Et nous avons ensemble donc préparé l'évasion de la santé, et nous avons ensemble mené la lutte contre les quartiers d'haute sécurité.
Alors Jacques Mérine, c'est l'homme aux mille visages, ça a été l'ennemi public numéro un, et il est tué, il a 42 ans, il est tué le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt à Paris. Là aussi, la famille Mérine n'a jamais eu gain de cause, quand bien même elle a plaidé l'affaire devant la justice en disant que la police n'avait pas fait de sommation avant de tirer.
On est bien d'accord là-dessus, c'est un assassinat prémédité, avec des policiers qui ont tourné le cadavre de Jacques en sont en train de danser la danse du scalp. Il n'y a pas un magistrat en France qui peut dire Mérine a tué telle ou telle personne. Mérine, il a revendiqué bien évidemment des crimes qu'il n'a pas commis. Il n'y a pas un juge ni un avocat qui peut vous dire tel jour, tout ce qu'il raconte dans son livre, c'est de la littérature. Vous voyez, il faut mettre à ce que. Comparer ce que dit Jacques Mérine avec les faits. Et le juge Annotto, qui a tout vérifié de son livre L'instant de mort, n'a jamais pu établir que Jacques Mérine avait tué quelqu'un.
Et Mérine, c'est aussi un souvenir dont vous ne vous débarrassez pas ?
Ah bah c'est un ami irremplaçable et irremplacé.
C'est quand même un ennemi public.
Et bah, il faut être un ennemi public dans un système où les oligarches sont, eux, les véritables ennemis du peuple. Moi, quand j'ai braqué les banques pour me dédommager des rangs judiciaires, je dirais que j'étais un peu avant-gardiste.
Que lit-on en prison ? Parce que vous avez acquis aussi une grande culture littéraire par vos lectures en prison. Qu'est-ce qu'on lit en prison ? La littérature subversive ?
Bah, la plupart, ils lisent les bibliothèques vertes ou roses. Ou... Moi, j'ai connu la prison où on ne pouvait lire que la Bible. Au cachot. À titre personnel, moi, je lis des auteurs subversifs. Gramsci, Raoul Vaneghen, Malatesta, voilà, tous les autres, toutes les biographies des gens qui ont des parcours, qui se battent à la Mandrin ou à la Cartouche, ou des gens comme ça. Et tout ce qui est digne du qualitatif humain, quoi, qui est debout, qui se bat, qui a de la force, qui réfléchit, qui pense, qui critique.
Alors Jean Genet, par exemple,
Jean
Genet,
qui était mon ami, bien sûr. Qui m'a soutenu quand j'étais en prison. Moi, je ne lis pas les gens qui écrivent et qui font du tourisme sur Terre.
Et vous situez où politiquement ? Alors, vous avez un discours qui semble être assez proche des gens de gauche, de la gauche.
Ni de gauche, ni de droite.
Seul la politique nous intéresse.
Non,
pas.
Non, moi, je suis comme Henri Tachan, ni de gauche, ni de droite. Seul sur le ring, avec ma gauche et ma droite, je swing, et c'est déjà le bordel.
Alors, vous êtes anarchiste.
Oh, il n'y a pas plus de caractéristiques que la vérité des anarchistes. Non, je ne peux pas être anarchiste. Je crois que je suis un libre penseur. Je suis un hédoniste. Et puis peut-être... comment tu vas ? Merci. Et donc, voilà.
Vous avez côtoyé des gens du showbiz, notamment bon, Jacques Higelin, qui vous a rendu un hommage avec la balade pour Roger.
Ah oui, oui, Jacques était un homme au cœur tendre. Un homme qui est un exemple humain. Quoi. Et moi, j'ai à un moment donné sensibilisé, je dirais, toute la classe politique, la classe artistique. Et ça ne sera plus possible aujourd'hui parce que, au temps où moi je me battais, j'ai suscité un regard sur le système carcéral, un regard sur la justice, parce qu'ils ont juif, au nom du peuple français. J'ai amené à ce que le système judiciaire soit sous haute surveillance, soit surveillé. Et ça n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on n'est plus dans un état des droits de l'homme. On vient de mettre en pratique cette loi Patriot Act, dont les gens ne se rendent pas compte de la portée, c'est-à-dire que. C'est une loi dont tous les dictateurs auraient pu rêver. Quoi.
Ah, vous avez des propos forts.
Moi,
vous dites que la France, finalement, n'est plus le pays qui illustre les droits de l'homme. Alors.
La France, c'est un moche pays.
La France
est un moche pays.
Et pourquoi ne la quittez-vous pas ?
Bah parce que je n'ai pas les moyens de partir. Je ne sais pas trop où aller. Mais je ne suis pas plus français que... J'ai pas le sens. Moi, je suis un citoyen du monde. Je suis un habitant de la planète. Je n'ai pas l'esprit des frontières. Les gens qui disent « Ah ben moi, je suis pas raciste », etc. Quand on dit « Je suis antiraciste », ça sous-entend déjà du racisme. Moi, je parle à tout le monde. Voilà, j'ai pas de... Un être humain, quel qu'il soit, n'importe où il soit, je vais lui parler, quoi. J'ai pas... Même la condition sociale. Regardez aujourd'hui, l'argent. L'argent, c'est un apartheid. Il y a 10 millions de personnes en France qui sont sous seuil de pauvreté. Et ils ne se révoltent pas, ils vont au champ, leur filent à bouffer, c'est fini quoi. Ils mangent de la merde, ils regardent la télé, ils sont. Voilà, avec votre métier de journaliste, vous savez très bien ce que propagande venir quoi. Donc voilà, ils ont de la propagande des journalistes. À longueur de journée, oui.
À l'instant, Roger Knobelpis, enregistré le 11 octobre 2015 au Salon du Livre de Migennes. Si vous voulez vous plonger dans ces textes poignants et incisifs, je vous rappelle quelques-uns de ces titres. Caïchès. Quartier de haute sécurité, paru en 1980 avec une préface de Michel Foucault. Mentionnons également l'acharnement ou la volonté de l'erreur judiciaire aux éditions Stock. Et puis, on trouve un très grand nombre de livres de Roger Knobelspiess en livres de poche. C'est le cas notamment de Voleur de poules, une histoire d'enfant. Vous écoutez Wagon Livre spécial Radio Archive Wagon Livre aujourd'hui sur Radion. Dernière pause musicale à bord de votre émission littéraire. Et ensuite, bien sûr, nous partirons aux côtés de Jean-Louis Debré pour revenir sur le parcours et certains aspects du caractère de l'ancien président Jacques Chirac.
Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever. Everything will stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your.
Nous explorons les archives de Wagon Livre qui fêtera à la fin de cette année 2020 ses 10 ans d'existence sur l'antenne de Radion. C'est donc aujourd'hui un Radio Archive Wagon Livre. Et comme je vous l'avais promis, nous allons entendre Jean-Louis Debré. J'avais rencontré à Paris Jean-Louis Debré, très précisément le 22 avril 2015, pour lui demander de commenter certains aspects du président Chirac. Jean-Louis Debré venait d'ailleurs de faire paraître aux éditions Talendier un ouvrage intitulé « Le monde selon Chirac ». Vous connaissez Jean-Louis Debré, fidèle compagnon de route de Jacques Chirac. Je ne vais pas retracer son parcours politique. Vous savez que Jean-Louis Debré aussi a écrit un grand nombre de polars aux côtés des ouvrages qu'il a pu commettre, notamment « Ces femmes qui ont réveillé la France » avec sa compagne Valérie Bochenek. Jean-Louis Debré, en tout cas, m'avait très gentiment reçu au Conseil constitutionnel dans son bureau pour parler du Monde selon Chirac, et je lui avais demandé de quelle manière il avait rencontré celui qui, par la suite, et par deux fois même, a été président de la République, Jean-Louis Debré.
Oh, j'ai rencontré Jacques Chirac il y a bien longtemps. La première fois, je crois, que je l'ai vu, c'était en 1967. Je ne faisais pas de politique. Mon père était ministre et le général de Gaulle avait été allé au Canada et il avait lancé son « Vive le Québec libre !» Et naturellement, ça avait fait un bruit extraordinaire et le général avait interrompu son voyage pour rentrer en France. Et ce soir-là, je dînais avec mon père et mon père dit « Il faut que j'aille accueillir le général à Orly, viens avec moi, on bavardera dans la voiture. » Et puis l'avion avait du retard, il y avait un certain nombre de ministres qui attendaient le général, puis un grand personnage qui fumait des Pall Malls. À l'époque, je fumais un peu, mais on ne fumait pas dans la salle d'attente. Donc, il allait sur le perron. Et puis, je suis allé avec lui sur le perron et je dis, attends, on a commencé à fumer une cigarette. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? Vous savez, moi, je suis magistrat, etc. J'aimerais bien bavarder avec toi. Je dis, écoutez, je suis à votre disposition, petit magistrat ou petit étudiant devant un ministre. Oui, bon. Et puis deux jours après, il m'a appelé. Je suis allé le voir, on a discuté pendant quelques temps. Et puis on a pris l'habitude d'aller prendre un petit déjeuner ensemble. Et puis un jour, il m'a dit, est-ce que tu veux rentrer à mon cabinet ? Et depuis, je ne l'ai plus quitté. Le destin de Chirac n'est pas la politique. Le destin de Chirac, d'ailleurs, il est allé aux États-Unis, il a bourlingué sur un bateau. C'est les grands espaces, les conquêtes, la découverte de nouveaux pays. Il est fasciné depuis toujours par les différentes civilisations. Il est un partisan acharné du dialogue des cultures. Et donc, c'est ça, sa vie. Mais le destin n'est pas toujours celui qu'on espère être. Et il va faire l'ENA, il va réussir l'ENA, puis il va rentrer comme fonctionnaire au secrétariat général du gouvernement, puis il est vite repéré, rentre au cabinet de Pompidou, et à ce moment-là, c'est Pompidou qui lui dit, écoutez, maintenant c'est fini, l'administration, vous les allez faire de la politique, et vous allez vous présenter à Paris. Et Chirac, non pas à Paris, moi, ce n'est pas ma terre. Mais Paris, c'est la circonscription est plus facile, dit Pompidou. Oui, mais moi, je veux aller en Corrèze, car la Corrèze, c'est la terre de mes ancêtres, c'est là où j'ai mes racines. Alors que la circonscription qu'il convoite n'est pas du tout acquise à ses idées à l'époque, et que c'est plutôt la gauche qui règne en Corrèze, il combat et il gagne. Et il gagne, et c'est un homme profondément ancré dans la terre corrézienne. Ce qui est assez fascinant, et j'essaie de le mettre dans le livre, c'est en fait les itinéraires croisés de Chirac et de Mitterrand. Voilà un Chirac qui commence à gauche, qui va finir à droite. Un Chirac qui va subir deux échecs au présidentiel, qui va affronter les trahisons dans son camp. En face de lui, Mitterrand, qui lui commence à droite, va finir à gauche. Mitterrand qui, avant d'arriver à l'Élysée, va subir deux échecs. Mitterrand qui, comme Chirac, va être confronté à la contestation au sein du Parti socialiste. Et ces deux hommes, ils vont se retrouver finalement parce que Chirac va, après l'avoir combattu, Mitterrand, après avoir contester sa politique, va admirer l'artiste politique, celui qui sait combiner, calculer, orienter, ses stratèges. Et Chirac admire ça. Et puis, ce Mitterrand qui évolue et qui, partant d'un anti-gaullisme forcené, souvenez-vous, le coup d'État permanent de Mitterrand, vers la fin, Et quand il va devenir président de la République, va être le président de la République qui va le mieux appliquer la Constitution de la Ve République, après l'avoir dénigré. Et finalement, Chirac part à gauche, arrive à droite, Mitterrand part à droite, arrive à gauche, et ils ont un dénominateur commun, avec leurs mots, avec leur appréciation, avec leur histoire, qui est de Gaulle. Et Chirac a expérimenté une cohabitation avec Giscard et une cohabitation avec Mitterrand. Et finalement, avec Mitterrand, ça s'est mieux passé. Parce que Mitterrand et Chirac sont des hommes de la terre, sont des hommes de la province, la Saintonge, la Corrèze, sont des hommes qui ne sont pas, malgré leurs apparences, des idéologues. C'est le même milieu. Giscard, Chirac, ce n'est pas du tout le même milieu. C'est une autre conception de la vie politique. Giscard, c'est plus le monarque qui est là et qui est sûr de lui, pense qu'il a, que son destin est inscrit dans l'histoire de la France. Or, Mitterrand et Chirac, ce sont des hommes politiques qui aiment leur pays, qui se battent pour leur pays, mais ne sont pas, du moins avant la fin de leur existence, convaincus qu'ils vont être des personnages de l'histoire de la France. Or, Giscard, avant même d'être dans l'histoire, il est convaincu qu'il est dans l'histoire.
Il est une femme que Jacques Chirac a imposée, c'est Simone Veil.
Oui, lorsque Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République, il nomme Chirac Premier ministre et Chirac lui propose de nommer Madame Simone Veil au gouvernement. Giscard est contre parce qu'il ne la connaît pas bien, parce qu'il pense qu'elle a voté Mitterrand, elle n'a pas voté Giscard, elle a voté probablement Mitterrand, et donc il n'a pas envie. Et c'est Chirac qui va imposer Simone Veil, et finalement Giscard va accepter.
Dans votre ouvrage, Jean-Louis Debré, Le Monde selon Chirac aux éditions Talendier, vous parlez un peu de la relation Jacques Chirac François Hollande. Alors bien sûr, c'est le François Hollande qui n'est pas encore l'actuel président de la République. Je lis juste ce que vous écrivez, c'est page 264. En juin 1981, lors des élections législatives, parachuté en Corrèze, Hollande défie Jacques Chirac dans son fief. Chirac affirme alors que le Parti socialiste a désigné contre lui, et là vous citez Jacques Chirac, un candidat moins connu que le Labrador de Mitterrand. C'est gonflé quand même. Alors, ça c'est une vacherie, c'est une belle vacherie.
Ah, c'est
ça.
Une belle vacherie, mais c'est une vacherie politiquement astucieuse. Parce qu'au lieu d'aller dire il n'est pas compétent, tout ce que vous voulez, je ne sais pas ce qu'on peut dire à cette époque-là, il a trouvé la formule, et d'ailleurs c'est tellement vrai que en regardant les documents de l'époque, cette vacherie va être reprise partout. Vous êtes moins connu que le Labrador de Mitterrand. Et oui, Chirac sait être méchant.
Jean-Louis Debré, adolescent, vous avez côtoyé André Malraux, qui était oui. Ministre de la Culture du général de Gaulle.
Je l'ai côtoyé, mon père l'a côtoyé, c'était un ami de mon père. Oui, j'ai une anecdote, si vous permettez, en terminant. Un jour, un professeur de lettres, admirateur de Malraux, nous avait demandé de commenter une phrase de Malraux. Alors, comme Malraux venait de temps en temps à la maison déjeuner avec mes parents ou dîner avec mes parents, moi qui étais assez paresseux de nature, je me suis dit, ça va être fantastique, je vais demander à André Malraux de me commenter. Donc j'arrive à sa manger et j'ai écouté, voilà, j'ai cette phrase. Alors Malraux me dit, prends sous ma dictée. Alors je prends sous la dictée, probablement très mal, hein, mais je rends ma copie au professeur avec un côté un peu narquois. Tenez, voilà, j'ai commenté la phrase de Malraux. Puis quand le professeur rend les copies, j'ai une très très mauvaise note. Et à ce moment-là, je regarde le professeur et je dis, vous qui nous dites toute la journée que vous êtes admirateur de Malraux, voilà une dissertation qui a été rédigée par Malraux. Il ne m'a pas cru et j'ai été collé. Il avait raison parce que j'avais mal transcrit, mais il avait tort parce que c'est Malraux qui me l'avait dit.
C'était Jean-Louis Debré que j'avais rencontré en avril 2015 à Paris pour évoquer son ouvrage intitulé « Le monde selon Chirac » aux éditions Talendier. Jean-Louis Debré, qui est un homme extrêmement chaleureux et sympathique. Et puis j'aime bien cette petite anecdote finale dans laquelle il raconte la mauvaise note qu'il a eue à cause de Malraux, ministre de la Culture du général de Gaulle. Je trouve ça vraiment savoureux. On est au terme de cette émission. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Je rappelle que donc aujourd'hui nous avons entendu des extraits d'entretiens notamment avec Régine Deforge, Roger Knobelspies, Éric Morena et nous avons fini avec Jean-Louis Debré. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent congé de fin de semaine, mais je n'oublie pas de vous donner rendez-vous samedi prochain, 22 février, toujours à 11h sur Radion. Nous aurons le plaisir de recevoir devant nos micros le romancier Didier Cornaille qui fait paraître un nouveau roman aux éditions des Presses de la Cité. Nouveau roman intitulé « Le chemin de la Ronceraie ». Ce sera une promenade dans le monde rural, dans le Morvan, avec un fin connaisseur du monde agricole et du monde rural, en la personne de Didier Cornaille qui sera avec nous samedi prochain. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Si vous voulez réentendre cette émission ou si vous avez manqué des moments de cette émission, bien évidemment, vous la retrouvez sur le site d'archives de l'émission via Internet en pianotant www.yannickpetit.fr. Encore merci, au revoir à toutes et à tous et très bon congé de fin de semaine à l'écoute des programmes de Radion.